Géocyclab, c'est un projet artistique de longue haleine, de très longue haleine. Il en faut du souffle pour pédaler dans le monde entier, ce qu'ont fait certains de nos invités. Il faut parfois de la patience pour accoucher d'une œuvre, en l'occurrence un documentaire pour raconter l'aventure géocyclable. Deux artistes qui sont partis pédaler dans différents pays à la recherche d'inspiration pour créer, Fañch Dodeur et Bart Perron. Ils étaient en vélo couché, ils ont donc voyagé il y a longtemps, ils sont revenus, le temps a passé, ils se sont consacrés à d'autres projets, à d'autres rencontres aussi, et parmi les personnes rencontrées il y a eu Éric Thomas et Erwan Babin qui les ont finalement aidés à transformer leur voyage en film, et ils l'ont présenté ce film cet été, l'été dernier au Festival du cinéma de Douarnenez. C'est là qu'on les avait rencontrés, ils nous ont présenté leur film Kilomètre 18905.
Le film qu'on présente, il s'appelle KM18905. Alors c'est un projet qui a commencé il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Pas vraiment le film, mais en tout cas l'origine du film, c'est il y a 10 ans. Où on est parti avec Fañch il y a 10 ans. On va fêter les 10 ans cette année. Là. On est parti faire un tour du monde de 3 ans, un atelier mobile en vélo.
En vélo couché, c'est ça ?
En vélo couché en plus, ouais. Et pendant ce voyage, on a fait plein de choses, mais on a, parmi d'autres choses, assez régulièrement, on a filmé, on a produit des images et du son. On a glané en fait des plans vidéo et du son, à la fois pour auto-documenter notre voyage et aussi pour le plaisir. Enfin, c'est une sorte d'exercice, de pratique qu'on avait chacun. Alors moi à l'image et Fañch au son plutôt. Et donc on a rempli, si on résume, on a rempli un disque dur de je sais plus combien de terras en 3 ans. Quoi. Et on est rentré en 2015, et en 2016-17, on a commencé à se dire qu'on avait envie de faire quelque chose avec toutes ces images et ces sons. Et je pense que vers 2018, là on a vraiment lancé le truc, on a embarqué Erwan Babin et Éric Thomas, qu'on connaissait Erwan de longtemps avant et Eric qu'on a rencontré au retour, et on les a conviés à une expérience de montage à 8 mains, de montage son et image vraiment à proportion égale d'importance et de temps passé et d'ordre aussi, c'est-à-dire qu'on a fait du montage image sur du son et du montage son sur de l'image, voilà.
Alors la partie son justement, en quoi est-ce qu'elle a consisté ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ?
Le son en fait, il a été glané autour du monde. Le film n'a pas de parole, donc le son d'un coup a une position relativement importante. Et notre objectif, c'était de faire avec la matière qu'on avait récoltée et pas avec autre chose. Et d'avoir quand même quelque chose de parfois musical, parfois juste du son, parfois expérimental.
Donc c'est plutôt de la création sonore, la bande-son, il n'y a pas de gens qui parlent ou de témoignages.
Il y a un peu de tout, il y a des gens qui parlent, il y a des bruits, il y a du son trafiqué, torturé, trituré sur des logiciels de bidouillage. De temps en temps on entend des voitures, on entend des dunes qui chantent, on entend
des mobilettes marocaines qui passent en Inde, on entend des enfants africains qui crient en Europe.
Ceux qu'on entend là sont dans le film. Non, ils sont pas dans le film. Et alors toi, tu étais extérieur, Erwan. Quelles ont été tes impressions quand tu as vu le voyage de l'extérieur ?
Déjà, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la densité d'images, la quantité de matière, quoi. Et après, c'était quand même un grand jeu et un grand bonheur que de se plonger dedans, en fait. Que de plonger, ça nous a pris du temps, mais des recherches qui a pris, peut-être 2, 3, 4 mois, finalement, prendre vraiment le temps de regarder toutes les images. Il fallait aussi que je me les approprie. Et d'écouter aussi une bonne partie des sons. Et après, ce qui m'a plus marqué, moi, c'est Après, c'est ce qui a fait aussi la ligne directrice du film, quoi. C'est que c'est quand même un film on the road, quoi. C'est un film réalisé sur la route. C'était quand même tout le temps sur la route, et donc du coup, c'est filmé depuis la route. Et c'est vraiment ça qui m'a plus marqué, c'est la vie du monde sur la route, quoi.
Qu'est-ce qu'on voit alors ?
On voit plein de choses, mais si on arrive à résumer un tout petit peu le fait d'être en vélo, on est quand même quasiment constamment sur des axes très empruntés. On n'est pas au milieu de la montagne sur un GR. Donc on est très souvent sur de la route goudronnée, de temps en temps sur des pistes, mais en tout cas tout le temps dans la circulation des différents pays qu'on a traversés. Donc dans l'humanité, quoi, enfin dans l'humanité vraiment qui fait du bruit, qui pollue, qui vit, qui circule, qui échange. C'est vraiment le fil rouge qu'on a dans toutes ces images, je crois que c'est ça, c'est la suractivité de l'homme, enfin de l'humanité. Et du coup, cette forme de... de globalisation, enfin le fait de retrouver un peu les mêmes principes partout, les camions, les mobylettes, enfin Erwan le disait juste avant, des motifs comme ça qui sont un peu les mêmes avec des différences bien sûr visuelles, mais c'est un peu toujours la même histoire quand même, c'est des circulations, des moteurs, des...
Les ambiances sonores sont les mêmes aussi, enfin il y a des reproductions de motifs sonores aussi.
Bah ouais, sur les routes, une route... D'ailleurs c'était assez... Bon, c'était frustrant au début en tout cas, j'ai eu du mal à me faire à l'idée que je pourrais un jour enregistrer juste un insecte et pas l'insecte avec tout le monde qui... Enfin, avec son environnement en fait. Et il y a juste une chose que je voulais rajouter par rapport à qu'est-ce qu'on voit. En fait, on voit ce que nous, on voyait, même si c'est un peu forcément avec le montage. Et on n'a pas filmé pendant tout le voyage, mais on a choisi aussi de montrer ce que nous on voyait et pas de montrer nos vélos et pas de nous montrer en train de faire nos bivouacs même si c'est chouette et tout, même si c'est des super moments, mais c'est pas ça le sujet du film.
Et donc sur tous les rushs que vous aviez là, enfin là je vous ai demandé à la personne extérieure, qu'est-ce que vous avez enlevé
Ah oui.
C'était toi, c'était ton rôle d'enlever ou quoi?
C'était mon rôle d'enlever, ouais. Bah, du coup on a choisi d'enlever, ouais, tous les plans où ils apparaissaient, tous les plans de caméra embarquée à vélo. En fait on n'avait pas envie de faire un film de voyage, on avait plutôt envie de faire un portrait du monde, quoi. Portrait du monde tel qu'il a été perçu à un moment donné par, voilà, par deux personnes, d'un point de vue sonore et d'un point de vue image, quoi. Et ensuite, mon rôle aussi et le rôle d'Eric au montage, c'était aussi de réfléchir à un point de vue du monde avec lequel on serait d'accord, même si nous, on n'a pas fait on n'a pas traversé des champs de Malaisie où il n'y a que de l'huile de palme pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, enfin de la palme pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est aussi de trouver parfois des choses plus positives que... C'est vrai qu'au début du montage, vous étiez un petit peu déprimé de l'état du monde. Et les images ne transcrivaient pas forcément ça non plus. Ah non, non. Ça peut être un film aussi très joyeux.
D'ailleurs, c'est le cas. C'est à moitié le cas. Enfin, ouais. C'est pas que ça, mais... Et le rôle d'Erwan et d'Eric, c'était pas votre rôle attitré, mais on avait besoin d'eux aussi pour nous sortir de blocage et de... Enfin, je pense qu'ils ont été vraiment importants. Pour le sortir les vers du nez. Enfin, je sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est quelque chose comme ça. Ouais.
Qu'est-ce qui est sorti comme vers du nez que vous aviez pas finalement vu en filmant?
Ça a été vraiment un dialogue à quatre, enfin à huit mains, on dit comme ça, mais à quatre personnes, où on a, enfin chez moi, on a, je pense, redécouvert. Enfin, je parle pour moi, mais j'ai vraiment redécouvert des images, des plans, alors qu'ils avaient vieilli, hein, parce qu'on les a quand même, on s'est replongé là-dedans presque 10 ans après, enfin 7-8 ans après les avoir tournés. Donc de toute façon, il y avait une distance temporelle et d'oubli, la mémoire avait fait son travail. Mais malgré ça, chaque image, pour moi, est associée à des souvenirs, à une ambiance, à des choses qui sont complètement hors champ et que seul moi, je projette sur le plan. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup comme ça de conversations et parfois même de débats sur le choix de tel plan, où en fait, on ne voyait absolument pas la même chose. Donc ça a été assez passionnant de mesurer ça, en fait, tout simplement. C'est une sorte d'exercice un peu presque simple, mais là, c'était un cas concret qui a duré longtemps, quoi, qui a duré plusieurs années de montage, là. Enfin, pas plein temps, mais qui s'est aussi étalé dans le temps, donc avec des vrais temps de recul, de relecture, de digestion et des temps intenses où on était tous les quatre à regarder, à écouter, à s'interroger, à prendre du recul et à comprendre tout ça, justement, à comprendre la distance entre notre mémoire affective de ce voyage qu'on a fait chez moi à travers ces rushs et la mémoire plus objective, juste d'un disque dur qu'on aurait pu trouver sans avoir fait ce voyage nous-mêmes. Et là, c'était plus la position d'Eric et d'Erwan.
Et alors au final, donc il y a les champs d'huile de palme, et c'est quoi les bons moments, les moments plus gais?
Non, ce qui peut y avoir comme moment assez gai, c'est par exemple, il y a une toute petite séquence où on a isolé tous les moments où les gens à travers le monde jouaient au ballon. Et là, c'est un des rares moments où de plan en plan, il y a une espèce de suite logique où on suit le ballon en fait, qui passe de plan en plan, quoi. Donc ça dure 2 minutes, mais c'est une sorte de match de foot totalement sans but ni objectif. C'est juste de se passer des ballons d'un bout à l'autre du monde, quoi.
Et vous allez faire une suite ou c'est bon? C'est bon, là, vous avez assez bossé.
Normalement, c'est bon, tout y est.
J'avais souvenir que quand vous étiez parti, en tout cas au départ, il y avait aussi l'idée de faire un tour du monde de la low-tech et de l'open source. Et qu'est-ce que c'est devenu ce projet-là, ces systèmes D du monde entier
Eh ben, c'est quelque chose qu'on a fait pendant le voyage, là, pour le coup. On a réellement eu ce fil rouge pour trouver des contacts dans les pays où on allait à la rencontre des Fab Labs, des lieux de la culture du livre, des hackerspace et tout ça. Et donc on en a rencontré quand même pas mal. On a souvent d'ailleurs séjourné, parfois longtemps dans ces lieux, à faire des choses avec les gens sur place. Et à chaque fois, quasiment à chaque fois, on a réussi à faire une sorte de portrait. Alors c'était moins des objets du coup au final. On était parti avec l'idée d'objets, ouais, de système D, de trucs comme ça. On en a fait quelques-uns, mais ça, on a décroché de ce projet-là. Pour plutôt faire des portraits de lieux, de projets, de gens au final. Avec des interviews, du coup on a fait pas mal d'interviews vidéo. Et tout ça par contre a été tourné, monté pendant le voyage et diffusé sur le site internet qu'on avait à l'époque. Alors le site d'origine n'est plus en ligne et là on est en train de migrer l'archive de ce site sur notre site actuel, de notre nouveau collectif, de la suite de cette aventure en tout cas. Donc là c'est plus accessible mais ça le sera bientôt.
Et aussi vous deviez faire de l'art sur place. Et vous aviez le temps de faire de l'art sur place?
Alors c'est quelque chose aussi. Bah pareil, une petite déception au début. On n'avait pas pris en compte les impératifs météorologiques, le fait de devoir trouver un endroit où dormir, le fait de devoir manger, de devoir trouver de l'eau, etc., etc. Donc les installations dans le désert, bah en fait c'est pas si évident que ça. Mais on a quand même fait des choses, notamment, c'est aussi de l'audiovisuel. On a fait 83 haïkus, on appelle ça comme ça en référence au poème japonais. Et c'était, on se disait qu'à cet endroit-là, on se sent bien, on avait le temps, on était disponible. Bart partait avec sa caméra, faire un plan, deux plans. Et je partais avec mon enregistreur, enregistrer du son, quoi, soit en macro, soit un plan large. Sans se concerter, et après on calait juste l'image sur le son et on regardait ce que ça donne. Et du coup on en a fait plusieurs et on en a gardé 83.
Et là, juste pour parler de la synchro image et son du documentaire, est-ce que donc on entend les sons qui ont un rapport quand même avec l'image ou c'est volontairement décalé ou comment ça fonctionne?
Non, il y a des sons directs qui, oui, en lien du coup avec ce qui se passe à l'image, et sinon il y a des ambiances qui ont été prises ailleurs, qui sont parfois à 1000 km de là ou des fois non, mais c'était juste pas au même moment, pas au même endroit. C'est pas forcément connecté à l'image, ouais. Même si régulièrement quand même il y a un rappel quand il y a une voiture qui passe de droite à gauche, elle passe de droite à gauche dans le son aussi, quoi. Ouais, et je voulais juste rajouter qu'ils ont quand même fait quelques petites performances filmées. Et que dans le film, il y en a quand même 6, je crois, qui ponctuent régulièrement le film. Voilà. Et là, le son. Et là, c'est le moment où le son est vraiment en direct, et du coup, on se demande si c'est vrai.
Et il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas fait pendant le voyage. Enfin, on a donc le voyage, ça a duré à peu près 1000 jours. Chaque jour, on a récupéré un objet au sol. Ouais, un objet perdu, un objet abandonné. Et on les a tous ramenés. Du coup, on a mis l'objet et on en a fait une sculpture. Avec plein de choses derrière, enfin encore une fois avec du son, de l'image, mais on a une espèce de tour comme ça, une espèce de carnet de bord, un cabinet de curiosité qui présente justement ces objets, les objets d'un monde clairement globalisé.
Oui, il y a une chose importante, c'est que le film, on l'a pensé aussi comme à la fois comme un film qu'on peut projeter en salle, c'est un documentaire de création, c'est pas vraiment un documentaire qui raconte quelque chose, mais qui exprime un portrait du monde. Et c'est un format d'une heure, il y a une narration, mais en fait on peut le prendre un peu en cours de route et lire le film jusqu'au bout. Donc il est pensé aussi pour être projeté en exposition à côté des 1000 objets et d'autres petits projets de traces de ce voyage. Et donc dans ce sens, il s'intègre dans un travail qu'on a commencé avec Fanche peut-être un an ou deux après être rentré. On s'est vraiment dit que le voyage, on avait produit beaucoup beaucoup de choses, mais qu'on avait encore envie de non plus de travailler en voyage, mais de travailler sur la mémoire de ce voyage. Donc les 1000 objets et ce film s'inscrivent dans cette démarche. Ouais, de recherche autour de cette question de la mémoire, à la fois, je reviens là-dessus, mais la mémoire personnelle et la mémoire numérique, la mémoire physique, les objets, interroger voilà, toutes les dimensions de la mémoire et on la met en scène à travers ce film et à travers l'expo des 1000 objets.
Vous n'allez pas refaire le voyage pour voir comment ça a changé, non?
on a un projet, ça consisterait à refaire le voyage avec les 1000 objets et les replacer chacun à l'endroit où on les a pris, mais on cherche des financeurs.
Et c'est signé le documentaire Tita Productions.